Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
L'an 1 du programme du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion PDDRCS, son coordonnateur appelle les groupes armés actifs dans l'est de la RDC à déposer les armes et à rejoindre ce programme. Tommy Tamboué l'a dit hier dans une interview à Radio Okapi. C'est aujourd'hui que démarre l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue de la RDC. Le lancement officiel sera donné à partir de Kisangani par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba. Et puis, l'invité de ce matin, Dr Samuel Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle. Il parle de quelques étapes déjà franchies dans le cadre du programme d'accès gratuit aux soins de qualité pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés dans l'ensemble du pays. Programme annoncé le 30 juin dernier par le chef de l'État dans son adresse à la nation. Madame, Messieurs, bonjour. Le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion PDDRCS appelle les groupes armés actifs dans l'est de la RDC à déposer les armes et à rejoindre le programme. Tommy Tamboué l'a dit hier dans une interview exclusive à Radio Okapi à l'occasion du premier anniversaire depuis le lancement de ce programme. Il donne quelques détails sur les sites qui vont être ouverts dans certaines provinces pilotes pour accueillir les rendus. Tommy Tamboué est au micro de Michel Kifindangoy.
Je voudrais féliciter les communautés de l'Ituri qui ont pris l'engagement d'aller dans les dialogues intracommunautaires. Et à travers ces engagements, leurs fils ont décidé également de déposer les armes. Je voudrais les rassurer que nous sommes en train de travailler dans cette province. Déjà, nous avons un site pilote de Diango qui est à 10 km de Bouni. Ceux qui veulent se rendre, ils sont les bienvenus. Ils seront accueillis. Ils ne seront pas maltraités. Nous les recevons au site de Diango. Pour le Nord Kivu, je voudrais également féliciter le travail de l'armée. Il y a un site également pilote qui va être ouvert dans quelques jours au niveau de Chacha. Leurs enfants peuvent aller. Et au site Kivu, il y a 3 sites qui seront ouverts. Il y a un site de Kabare, de Katobo et un site Kananda pour le Tanganyika. Je vous informe qu'il y a un site Kasambondo qui est à 25 km qui vient d'être ouvert pour recevoir tout cela qui souhaiterait se rendre. Et nous voulons que les conditions meilleures soient là. Qu'ils aient de la nourriture, qu'ils aient à boire, qu'ils aient des habits, mais également qui soit formé là-bas.
Sachez que Tommy Tamboué sera l'invité du magazine Grande Interview de Radio Okapi, animé par Michel Kifinda et Alain Rung, à suivre le samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 à 10h05, heure de Kinshasa. On peut partir de rien pour devenir responsable d'une grande entreprise. C'est l'essentiel du message de l'ONG Femmes Leaders pour le progrès de la jeune fille qui sensibilise les jeunes de Boutembo sur l'entrepreneuriat en vue de leur éviter la tentation de rejoindre des gangs ou autres groupes armés. Liliane Moussavouli, coordonnatrice de cette ONG, explique au micro de Sadiki Aboubakar.
Il y a plusieurs jeunes, par exemple, qui intègrent les groupes armés parce qu'ils n'ont pas à faire. Ils se disent comment je peux avoir de l'argent. C'est comme ça qu'ils intègrent même le groupe des malfaiteurs pour cambrioler des maisons, être des coupeurs de routes parce qu'ils veulent avoir des gains facilement. Ils ne veulent pas entreprendre, ils ne veulent pas travailler, raison pour laquelle nous encourageons les jeunes d'une manière générale à faire du travail. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que pour entreprendre, pour commencer sa propre entreprise, il faut avoir des gros capitaux. Les jeunes qui veulent attendre avoir 500 ou 1000 dollars alors que selon les circonstances dans lesquelles nous vivons, c'est difficile pour les jeunes de se taper 500 ou 1000 dollars. Alors nous essayons de montrer aux jeunes que c'est possible de commencer, même avec rien, c'est possible de commencer une petite entreprise pour avoir des buts. Je donne juste un exemple banal. Actuellement, il y a les jeunes qui sont en train de vendre les fourrages. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'entreprendre dans l'élevage des cobayes, l'élevage des poules, des lapins. Il y a les jeunes qui sont en train de vendre les fourrages.
De la nourriture pour...
La nourriture pour les animaux. C'est de l'herbe, donc pour avoir ça, c'est vraiment gratuit. Tu peux faire ça juste pendant un mois, deux mois ou trois mois. Tu peux avoir un capital. Tu peux faire mena autre chose.
Nord Kivu toujours, un calme précaire régnait hier dans l'après-midi après des échanges des tirs dans la matinée entre les FARDC et le M23 dans les zones de Bikenke et Ruseke, dans les groupements de Bweza et Kisigari, territoire de Rutshuru. Selon les sources sur place, l'armée a riposté aux attaques simultanées des rebelles dans les deux villages. Aucun bilan n'a été communiqué, la zone étant presque vidée de ses populations. Les sources coutumières et la société civile locale déplorent les meurtres des civils qui continuent dans cette zone dont les corps ne seraient pas encore récupérés. C'est notamment dans le village de Ruseke, groupement de Bweza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 son régime d'embargo sur les armes et de sanctions relatives à la RDC. Il a levé cette option lors de sa réunion du jeudi 30 juin dernier à New York. Cette question était au centre du débat hier dans l'émission de l'organe congolais de Radio Kapi, présentée par Donna Madimba. L'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, qui a participé à cette émission, précise que l'embargo sur les armes existe bel et bien, mais seulement à l'endroit des groupes armés et non du gouvernement congolais. Il tient également à apporter un éclairage sur la notion de notification préalable qu'il faut adresser au comité des sanctions avant toute opération d'achat d'armes. On écoute l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier.
L'embargo sur les armes ne s'applique qu'aux groupes armés de l'Est du Congo, et ça depuis 2008, et ça a été encore renouvelé par la résolution de cette année. Ça, c'est le premier point. Second point, il y avait un dispositif de notification qui avait été mis en place en 2008 pour informer le comité des sanctions que le gouvernement congolais achetait des armes. Et d'ailleurs pas le gouvernement congolais ou les autorités congolaises qui doivent faire la notification, mais ce sont bien les pays vendeurs. Cette année a été décidé d'alléger ce dispositif de notification, donc la portée est encore vraiment réduite, et de ne limiter cette notification qu'aux armes légères. Et il y a la liste détaillée qui est en annexe. Il y a un compromis qui a été trouvé parce que certains membres du Conseil de sécurité n'étaient pas favorables à la levée totale de ce processus de notification. Mais ce compromis, pour moi, est un bon compromis parce que, en fait, les armes les plus importantes, les armes lourdes, les armes de gros calibre ne sont plus du tout concernées par le processus de notification.
Jean-Marc Châtaignier estime aussi que cette résolution constitue un progrès. Selon lui, elle peut apporter beaucoup à la RDC pour se défendre face aux agressions des groupes armés dans l'est du pays. Un point de vue que ne partage pas le député Ntumba Tshabola Bintou, qui a participé dans la même émission. Selon ce dernier, on ne peut pas imposer à un pays souverain d'informer le Conseil de sécurité chaque fois qu'il veut se procurer des armes pour défendre son territoire. On écoute le député national Ntumba Tshabola, élu de Katanda au Kasaï-Oriental.
Nous sommes très indignés et attristés par cette résolution et nous ne pouvons pas avoir la même compréhension que ce que l'ambassadeur est en train de dire. Pendant cette période où nous faisons face à une agression rwandaise à travers son bras séculier, le M23, vous ne pouvez pas empêcher à la RDC d'avoir des armes et de conditionner l'obtention des armes par une quelconque notification. Quand il parle que c'est un bon compromis, non, c'est un très mauvais compromis. Il dit qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes. Oui, acceptons qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes. Mais pourquoi on doit vous informer? Depuis que cet embargo a été décidé, qu'on est en train de suivre la circulation des armes en République du Congo, quel est le résultat immédiat que la République a eu à partir de cette notification-là? Nous sommes totalement opposés à cette histoire de notification. Nous réitérons la position de la République démocratique du Congo de la levée totale de l'obligation de notification pour ce qui est des armes, de la formation et de l'assistance technique.
Les extraits que vous venez de suivre ont été sélectionnés par Guy Matetsongo. L'actualité, c'est aussi le lancement du projet Protection et promotion des droits des défenseurs des droits humains en RDC. Il a été présenté hier par son consortium de 5 ONGDH. Il s'agit de la voix des 100 voix pour les droits de l'homme, SOS, information juridique multisectorielle, foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et indigènes défavorisés, Agir ensemble pour les droits humains et Diaconia. Financé par l'Union européenne à plus d'un million d'euros, le projet couvre une période de 29 mois dans les 26 provinces de la RDC, le compte rendu de Jeff Ngoy Mulunda.
Ce projet vise notamment à soutenir et protéger 250 DDH, les activistes pro-démocratie et les journalistes menacés du fait de leur travail. Rostem Ankenta, directeur exécutif de la VSV, en dévoile quelques axes.
De manière générale, ce projet a pour ambition de participer à la consolidation de l'état des droits en contribuant à l'amélioration de l'environnement de travail des défenseurs des droits humains et des réseaux des défenseurs des droits humains. C'est donc une approche qui part du principe que la prévention est l'un des piliers les plus solides, la protection des défenseurs des droits humains.
Un autre DDH parle des bénéficiaires du PPDDH.
Nous avons les premières cibles constituées essentiellement de défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des réseaux œuvra pour la protection des défenseurs des droits humains. Là, nous allons assister les défenseurs des droits humains et apporter un appui au réseau des défenseurs.
Certaines activités prévues consistent à mettre en place des systèmes d'alerte, l'assistance technique et médicale des DDH, ainsi que la mise à jour de leur cartographie.
Je vous le disais en titre, l'examen national de fin d'études primaires démarre aujourd'hui 5 juillet sur toute l'étendue des RDC. Le lancement officiel sera donné à partir de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo. Le ministre de l'EPST, Tony Mouaba, est déjà sur place depuis hier pour cette fin. Des précisions avec Jacques Moukonkolé.
Au sortir de l'entrevue avec le gouverneur de province par intérim, le patron de l'EPST a déclaré qu'outre les NAFEP, sa mission consistera également à faire un état des lieux du sous-secteur de l'EPST dans la Grande Orientale, et cela avec tous les cadres de son ministère dans cette partie du pays. Objectif, évaluer la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et essayer de suivre de près tous les problèmes de ce secteur afin de voir dans la mesure du possible comment y apporter des solutions idoines. Par ailleurs, Tony Mouaba a déclaré qu'il va procéder au lancement de la campagne « Pas d'école sans banc ».
Le constat est connu, il existe encore chez nous en RDC des écoles où les élèves étudient encore à même les soldes. Sur l'impulsion du chef de l'État, la campagne a été lancée pour nous rassurer qu'il n'existera plus jamais dans notre pays où les enfants étudient à même les sols sera affecté la qualité de l'enseignement.
La campagne étant lancée, elle doit être récupérée également au niveau de la province jusqu'à ce que l'objectif poursuivi sera atteint, a souligné le ministre de l'EPST, Jacques Moukonkolé. Kisangani, Radio Okapi.
Entre-temps, au Maniema, tout est fin prêt pour le déroulement de cette épreuve. Selon l'inspecteur principal provincial Maniema 1, toutes les malles contenant les items sont déjà arrivées dans les 108 centres de passation que cette province éducationnelle organise dans les 9 poules d'inspection. Diangenda Samukina Joseph demande à tous les intervenants de bien préparer psychologiquement les élèves finalistes pour qu'ils passent ces épreuves en toute quiétude. On écoute l'inspecteur principal provincial Maniema 1 au micro de Florence Kizalunga.
Les conditions d'organisation sont très bien réunies. Nous avons déjà envoyé toutes les malles dans les 108 centres de passation et nous attendons 32 000 candidats et que les centres sont déjà ouverts. Ici là, dans quelques heures de mardi le 5 juillet, nous attendons les élèves pour qu'ils puissent commencer les épreuves sans être inquiétés. Nous mettons en garde tous les intervenants, les surveillants, les chefs de centre qui vont devoir aller dans le sens de monnayer ou de demander aux apprenants n'importe quel sou, sous peine d'être sanctionné ou même être acheminé à la justice, parce que ces épreuves sont vraiment une gratuité, la grâce que le gouvernement central nous a donnée, la gratuité, et tout doit rester dans la gratuité. Alors, il est question de préparer psychologiquement les enfants pour qu'ils soient à temps demain et aller passer les épreuves sans aucune condition supplétive.
Et puis cette bonne nouvelle, le ministre de la Santé annonce la fin du troisième épisode de la maladie à virus Ebola dans l'Équateur et le 14e du genre en RDC. Information contenue dans un communiqué daté d'hier. Il a fallu attendre 42 jours de surveillance renforcée sans nouveaux cas confirmés conformément au protocole de l'OMS pour que la fin de cette maladie soit déclarée. Jean-Pierre Elali Koko.
Dans son message, le ministre Jean-Jacques Mbungani remercie les autorités politico-administratives ainsi que la division provinciale de la santé de l'Équateur, les experts du niveau national avec l'appui de l'OMS, de l'UNICEF et des autres partenaires. Ces équipes ont mis en œuvre une riposte rapide dès la déclaration de l'épidémie en déployant des mesures de lutte clés, le dépistage, le suivi des contacts, la prévention, les traitements et l'engagement à base communautaire. La vaccination a été lancée 4 jours après la déclaration de l'épidémie. Les bilans, selon le ministre de la Santé, fait état de 5 cas, dont 4 confirmés et improbables, qui sont malheureusement tous décédés. Au total, 2104 personnes ont été vaccinées, parmi lesquelles 302 personnes contacts et 1307 travailleurs de première ligne. Enfin, le ministre de la Santé rassure la population de l'Équateur et des provinces voisines de la poursuite des activités de résilience lancées récemment afin de renforcer les systèmes de santé dans cette partie du pays. C'est depuis le 23 avril 2022 qu'une nouvelle épidémie Ebola a été déclarée dans la province de l'Équateur. Elle a affecté les zones de santé de Mbandaka et de Wangata en pleine ville de Mbandaka.
Actualité internationale. L'Algérie célèbre aujourd'hui 5 juillet le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française. Malgré les gestes symboliques du président français Emmanuel Macron, les tensions restent vives entre l'Algérie et la France. Aux États-Unis, une fusillade a fait au moins 6 morts et 24 blessés hier lors d'un défilé organisé à Highland Park, au nord de Chicago. C'était à l'occasion de la fête nationale américaine. Après plusieurs heures de recherche, le principal suspect a été interpellé sans incident, selon la police locale.
L'invité.
Dans son adresse à la Nation le 30 juin dernier, le chef de l'État a, sur le volet santé, parlé de la migration du système actuel vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Il a également évoqué la mise en place du programme d'accès gratuit aux soins de qualité pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. Pour en parler, Radio Kapi reçoit Dr Samuel Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle. Il parle de quelques étapes concrètes et essentielles qui ont été déjà franchies dans le cadre de ce dispositif sanitaire. Docteur Kamba s'entretient avec Jean-Marc Matouaki.
Docteur Samuel Roger Kamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre par couverture santé universelle?
Pour les auditeurs, c'est assez simple en fait. L'idée, c'est de permettre à tous les Congolais d'accéder aux soins de santé avec quelques conditions. La première condition, c'est que ces soins de santé doivent être de qualité. La deuxième condition, c'est qu'ils ne se ruinent pas financièrement. Il ne faut pas que le jour où vous tombez malade, vous soyez obligé de vendre quelque chose d'important pour pouvoir vous soigner. Ou que vous soyez obligé de ne pas aller aux soins parce que vous n'avez pas les moyens. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'accéder aux soins de santé avec ces deux conditions-là. Mais là-dedans, il y a un mot très important qui s'appelle « universel ». Universel, ça veut dire tout le monde. C'est pas parce qu'on est riche qu'on peut avoir le droit aux soins de santé, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit. Universel, ça veut dire tout le monde. Donc, permettre à tout le monde d'accéder aux soins de santé de qualité sans pour autant souffrir financièrement.
Justement, par rapport à la couverture santé universelle, le chef de l'État a fait savoir qu'il y a un chemin parcouru et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. Quelles sont ces avancées enregistrées jusque-là?
Ben, en fait, si vous voulez, le programme du chef de l'État, qui est vraiment un programme majeur, c'est une grosse réforme du système. C'est une transformation. Quand on dit transformation, on dit changement. On doit changer un certain nombre de choses qu'on faisait avant. Par exemple, nous étions dans un système où, quand vous êtes malade, vous payez vous-même. Ou alors, pour les fonctionnaires, pour certaines entreprises, l'État ou l'entreprise paye. Ce qu'on appelle un système octroyé. Ou alors, vous payez vous-même, comme j'ai dit au départ. Maintenant, le système qu'on change, c'est de dire, ok, on va maintenant permettre que ce ne soit pas vous qui payez vos soins le jour où vous tombez malade, mais vous cotisez à une caisse et c'est cette caisse-là qui va payer. Donc on passe d'un système, comme on dit, octroyé à un système où tout le monde contribue, ça s'appelle un système contributif. Donc c'est une réforme majeure. Cette réforme majeure nécessite qu'on améliore beaucoup de choses dans notre dispositif de gouvernement. Par exemple, on doit améliorer l'offre de soins, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques et tout ça. On doit améliorer justement le système financier, c'est-à-dire le fait que maintenant les gens peuvent contribuer, mais vont contribuer quelque part. Mais qu'on doit aussi améliorer la gestion, la gouvernance. Alors toutes ces étapes-là ont commencé par une ordonnance présidentielle qui a créé d'abord un conseil national, parce qu'il y a plusieurs choses à bouger dans plusieurs ministères, donc ça ne peut pas se faire sans changement. La première ordonnance présidentielle, du 1er juin 2021, crée le Conseil. La deuxième étape qui a été franchie, c'est qu'on a adopté le plan. Ce fameux plan-là, de stratégique de la couverture santé universelle, a été adopté. Ça, c'était le 7 décembre. Ensuite, ce plan-là prévoit qu'on mette les institutions, les établissements de facilitation. Comment on va faciliter cette réforme-là? Là, ce sont des décrets du Premier ministre, et le Premier ministre a pris ces décrets le 9 avril. Et maintenant, ce dispositif, on va dire, institutionnel est complet.
Dans son adresse à la Nation congolaise, le 30 juin, le chef de l'État a promis dans les semaines qui viennent mettre en place les programmes d'accès gratuit aux soins de qualité pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Et cela va ensuite s'étendre dans d'autres provinces du pays. Où en êtes-vous avec ces dispositifs sanitaires?
D'abord, quand le président de la République parle, il faut savoir que sa parole a force de loi. Quand il dit « j'instruis », c'est-à-dire que tout le monde doit maintenant se mettre à la tâche. Mais le président de la République a dit ça pour deux raisons. Premièrement, nous avons un problème dans ce pays où nos mamans meurent beaucoup en accouchant. Et nous sommes un des rares pays d'Afrique où le taux de mortalité de la mère et de l'enfant ne baisse pas, au contraire. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de freins à l'accouchement de qualité. Le premier frein, c'est que les mamans ont peur d'aller à l'hôpital dans des conditions normales parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer. Deuxièmement, même quand elles y vont, souvent elles ne trouvent pas la qualité qu'il faut. Troisièmement, même quand elles y vont et qu'il y a la qualité, malheureusement, ce n'est pas partout qu'on trouve ça. Ça veut dire que, vraiment, le chef de l'État a compris ce besoin de la population de ne pas laisser nos mamans mourir tout simplement parce qu'elles accouchent. L'idée n'est pas juste de rendre l'accouchement gratuit. L'idée, c'est d'améliorer la mortalité de la mère et de l'enfant. C'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est pour cela que le chef a décidé que ça ne doit pas être dépendant des moyens des mamans, ça doit être pris en charge par l'État. C'est pour cela que ça, c'est un paquet qu'on dit gratuit, octroyé. C'est l'État qui va payer. Ce n'est plus la maman qui va payer, c'est l'État qui va payer. Mais va payer d'abord à Kinshasa. On commence avec Kinshasa. Ensuite, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on élargit aux provinces qui sont proches de Kinshasa pour que tout le monde ne vienne plus à Kinshasa parce que sinon, ça va attirer tout le monde. Mmh. Et ensuite, on généralise. Et ça, c'est une décision parce que ça commence déjà très bientôt.
Docteur Samuel Roger Kamba, merci d'avoir répondu à nos questions.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.